Bonjour, le magazine du week-end, c'est chaque samedi et chaque dimanche de l'été, 1h10, pour revenir sur l'actualité nationale et internationale de la semaine avec nos invités jusqu'à 13h50. Il se présente comme le premier programme universitaire de recherche indépendant et transparent sur le phénomène nucléaire. Le programme Savoir nucléaire a été créé il y a 3 ans à Sciences Po et travaille depuis sur la question du choix nucléaire, de la prise de décision, du dogme intouchable, de la dissuasion. 75 ans jour pour jour après Nagasaki, nous serons avec le fondateur de ce programme de recherche, Benoît Pelopidas, aux alentours de 13h20. Pour commencer, anacondesque, un adjectif qui ouvre ce matin la page opinion du journal du dimanche pour qualifier la dette. Anacondesque en référence à l'expression d'un sinologue américain, l'anaconda est dans le lustre une épée de Damoclès, écrit Nicolas Jambréon, revisité façon frayeur tropicale, et l'anaconda du moment, c'est la dette. Qu'elle a été pour partie restructurée cette semaine en Argentine, engagée mais à 27 par l'Union européenne, ou que certains appellent à l'annuler en Afrique, la dette revient invariablement dans les discours des dirigeants comme le cadeau empoisonné fait aux générations futures. On se rappelle Édouard Philippe devant le Sénat en plein mouvement des Gilets jaunes, répétant à l'envi face à une démonstration de détresse sociale. Nous, ce qui nous préoccupe, c'est la dette. Alors au-delà du débat économique et somme toute très technique sur la dette, au-delà de l'obsession comptable, on avait envie dans le magazine du week-end d'évaluer ce qu'il y a de politique dans la dette, dans le fait de la contracter, dans le fait de prêter pour les créanciers et dans le fait de la rembourser ou de faire défaut. Et pour ce faire, nous avons réuni 3 spécialistes de ces 3 dossiers très distincts par ailleurs, dette européenne, dette argentine et dette du continent africain, continent que vous connaissez très bien, François Bourguignon, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur émérite à l'École d'économie de Paris, ancien économiste en chef et premier vice-président de la Banque mondiale. C'était de 2003 à 2007. Nous sommes également en ligne avec Nicolas Dufresne. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste, haut fonctionnaire et directeur de l'Institut Rousseau qui se présente comme laboratoire d'idées se donnant pour objectif de concilier refondation républicaine et écologie politique. Et vous avez signé en juin une tribune qui demande à la Banque Centrale Européenne d'annuler une partie des dettes publiques qu'elle détient. Et puis nous accueillons notre 3e invité, Carlos Kenan. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour monsieur, vous êtes économiste, professeur à l'Université Paris 3 et vice-président de l'Institut des Amériques. Alors c'est en Argentine que l'on se dirige tout d'abord, puisque le président argentin Alberto Fernandez, président de centre-gauche, péroniste, élu en octobre dernier notamment sur la promesse de renégocier le remboursement des prêts du FMI, eh bien il a obtenu cette semaine une restructuration de sa dette publique. Est-ce que c'est une solution qui convient à tout le monde ?
Disons que déjà effectivement c'était une promesse, un engagement du président. Cette fois-ci ce qu'on a renégocié et restructuré c'est la dette auprès des créanciers privés, des fonds d'investissement auxquels l'Argentine devait à peu près 65 milliards de dollars. Et c'est effectivement un bon accord, somme toute, parce que après disons une négociation qui a été finalement courte, 7 mois, et les différentes positions se sont rapprochées, et il y a à peu près environ 35 milliards de dollars que l'Argentine va économiser en quelque sorte de service de la dette, notamment en préservant le montant total de la dette, c'est 65 milliards parce qu'il y a des cotes très faibles sur le montant du capital, mais avec des taux d'intérêt beaucoup plus bas et un étalement dans le temps jusqu'au milieu de la décennie 2040. Donc c'est un accord effectivement positif. Mais ce n'est qu'un début pour le redressement économique de l'Argentine, qui est aux prises aussi avec d'autres problèmes macroéconomiques importants, une récession qui était déjà là avant la crise sanitaire globale, et maintenant, comme le reste de l'Amérique du Sud, il s'agit du continent en quelque sorte épicentre de la pandémie, et de ce point de vue-là aussi, la situation est difficile. Mais cette restructuration de la dette auprès des créanciers privés, c'est un très bon pas. est positif. Maintenant, et sur ce plan de la dette, l'Argentine doit aussi négocier, trouver un nouvel accord avec le Fonds monétaire international.
Qui lui a prêté l'année dernière le prêt le plus important de son histoire, 44 milliards de dollars.
Exactement.
Donc, évidemment, l'Argentine n'est pas au bout de ses peines. Cette dette qui a été contractée au fil des années, évidemment, on se rappelle de 2001, pourquoi l'a-t-elle été contractée? Est-ce qu'à chaque fois que l'Argentine a contracté un emprunt auprès de ses créanciers extérieurs, est-ce que les responsables politiques ont toujours expliqué pourquoi à leurs électeurs et ce qu'ils voulaient faire de cet argent et de ces emprunts?
Bah, disons qu'il y a eu plusieurs phases pour aboutir à cette situation. Et déjà, un endettement très important dans les années 80, comme d'autres pays en développement, qui a débouché sur la crise de la dette des années 80. Ensuite, une ouverture financière, à mon avis, est trop brusque, trop rapide, entrée massive des capitaux, endettement dans les années 90, qui a débouché sur la crise de 2001, qui est une crise multidimensionnelle, parce que ça a été non seulement une crise financière, mais aussi sociale et politique. Après, l'Argentine a fait des restructurations avec des cotes importantes en 2005 et 2010. Et son taux d'endettement extérieur et public avait fortement diminué, certes aussi aidé par le fait qu'il y a eu une période de forte hausse des prix des matières premières, entre 2002, 2003 et 2013-2014. Mais disons qu'une politique plutôt prudente en matière d'endettement a été quand même abandonnée dans la période du gouvernement récent, 2015-2019, du président Macri, qui a renoué, et ça c'était bien, avec le monde, disons, avec la communauté financière internationale, mais il y a eu un endettement un peu trop rapide à des échéances très brèves, et du coup des échéances qui s'est concentrées sur 2020-2024 qui étaient clairement insoutenables. Alors qu'est-ce qu'on a fait de cet endettement? Malheureusement, pas beaucoup, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'endettement, et finalement, certes pour faire face à un déficit du compte courant de la balance des paiements, pour faire face à un déficit
budgétaire. Les pompiers du FMI sont
arrivés. Pas véritablement pour développer, du point de vue productif, le pays. Et les prêts contractés auprès du Fonds monétaire international, et en effet, finalement, n'a pas réussi à redresser le pays. Je parle du dernier, de 2018. Ce qui fait qu'effectivement, là, maintenant, il y a une responsabilité partagée, parce qu'il faut dire que ce prêt est très important octroyé par le Fonds monétaire international. Ça a été fait de manière un peu trop laxiste. Là, on passe vers le terrain politique. L'administration Trump voulait soutenir la réélection du président Macri. Et pour cela, ils ont été un peu trop légers en matière de prêt, à mon avis. Et ceci a débouché sur un montant très élevé, mais qui a eu des effets pratiques peu importants.
C'est vrai que les États-Unis ont un poids très important au sein du Fonds monétaire international, un droit de veto, donc, ce qui conduit à répondre un peu déjà à notre première question, la dette ou la question des conditions de remboursement sont aussi des questions très, très politiques. Alors on verra si cette restructuration est de nature à donner aux Argentins ou à leur rendre une certaine maîtrise de leur destin politique, qui est une expression qu'on entend souvent. François Bourguignon, en ce qui concerne certains pays africains, alors il y a le Soudan, la République démocratique du Congo, le Cameroun et bien d'autres, la crise sanitaire a dégradé encore des économies africaines, des budgets qui étaient déjà dégradé, est-ce qu'on aurait pu envisager aussi ce type de restructuration à l'Argentine, sans entrer tout de suite dans le débat sur l'annulation, mais une restructuration comme il vient de se faire en Argentine?
Si vous voulez, je crois que la situation est un tout petit peu différente, dans la mesure où, par rapport à l'Argentine, et en dehors de ce fameux prêt du FMI, la dette africaine est dans une majeure partie une dette bilatérale avec les agences de développement des pays développés, une dette multilatérale avec la Banque mondiale, en particulier la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et le Fonds monétaire, et finalement avec des détenteurs privés de la dette, donc des banques et des fonds d'investissement qui ont acheté des obligations émises par un certain nombre de pays africains. Dans le cas de l'Argentine, la grande négociation qui a eu lieu ces dernières semaines, c'était avant tout une négociation avec les détenteurs privés de la dette. Mais dans le cas de l'Afrique, ça ne correspondrait qu'à 30% de la dette existante. Alors, en même temps, on peut dire que ces 30% en question sont ceux qui coûtent le plus cher en termes de services de la dette. Pourquoi? Simplement parce que les taux d'intérêt auxquels les pays africains ont émis ces obligations sont relativement élevées parce que les investisseurs demandent une prime de risque en se disant finalement on investit, on achète de la dette du Mozambique ou du Ghana ou du Sénégal, mais on a un certain risque de ne jamais être repayé, donc on demande un taux d'intérêt beaucoup plus élevé que sur les marchés internationaux. Le Sénégal a émis il y a 2 ans, je crois, ou 3 ans, 2 milliards d'obligations, et les taux d'intérêt étaient pour l'un 4,5% et pour l'autre 6%, alors que les taux mondiaux étaient aux alentours de 1-1,5%. Et la différence, c'est la prime de risque, et c'est la raison pour laquelle le problème de la dette en Afrique est difficile, parce que le service de la dette est relativement élevé, mais ça ne concerne que cette partie de la dette.
Ouais, d'où cette demande fin mars de plusieurs chefs d'État africains à être exonérés de 44 milliards de dollars d'annulation du service de la dette. Mais François Bourguignon, est-ce que ces dettes-là sont le plus souvent la conséquence d'une mauvaise gestion, comme le leur disent très souvent les organismes, les bailleurs internationaux, mais ou les économistes libéraux, ou ce sont à chaque fois des choix politiques, où ni l'un ni l'autre, il n'y avait pas le choix? Mais le fait de contracter cette dette?
Non, c'est un petit peu difficile à dire. L'histoire de la dette africaine est la suivante. La dette africaine était à un niveau extraordinairement élevé à la fin des années 90, au début des années 2000, à tel point que beaucoup de pays étaient en cessation de paiement et ne pouvaient absolument pas faire appel au marché international, ne pouvaient pas payer leurs importations, etc. Il y a eu cette énorme initiative qui a été prise vers la fin des années 2000, qui a été l'initiative des pays pauvres fortement endettés ou très endettés, l'initiative PPTE, qui a éliminé la dette, une grande partie de la dette des pays africains, mais c'était à cette époque-là surtout une dette vis-à-vis des agences bilatérales de développement et vis-à-vis des bailleurs de fonds multilatéraux. Il y avait très très peu de dettes privées. À ce moment-là, la dette africaine est revenue à un niveau à peu près satisfaisant, qui était aux alentours de 20% du produit intérieur. Et à partir de 2013-14, surtout en fait à partir de 2015, avec la chute des prix des matières premières exportées par l'Afrique, les pays africains se sont endettés à nouveau et en l'espace de quelques années, la dette a augmenté de 25% à peu près pour être aujourd'hui en moyenne sur l'ensemble des pays africains aux alentours de 50% du produit intérieur brut. Alors, la raison pour ça, c'est effectivement que il y a eu cette chute des prix des matières premières, mais en même temps, durant les années 2000, il y a eu une explosion du prix des matières premières, donc on pourrait dire que le problème a été un manque de précaution de la part des pays africains qui n'ont pas épargné suffisamment durant la hausse des prix des matières premières et qui sont obligés aujourd'hui de s'endetter pour lisser l'évolution de leur économie.
Mais avec des bailleurs de fonds qui ont volontairement fermé les yeux pendant toutes ces années, qui ont continué à prêter en sachant qu'ils les mettaient aussi en difficulté.
Il faut faire une distinction là entre les bailleurs de fonds bilatéraux, multilatéraux, qui prêtent pour des raisons de développement. Il faut aussi distinguer le cas particulier de la Chine, qui est devenu le plus grand bailleur de fonds de l'Afrique, qui maintenant a à peu près 20% de la dette africaine. Et finalement, les bailleurs de fonds privés, si on peut les appeler de cette façon-là, qui eux, simplement répondent à la demande d'endettement de la part des pays et ne se posent pas de question de savoir si c'est bien, si ça n'est pas bien pour le pays de s'endetter. Ils leur disent, vous avez une demande de 1 milliard de dollars, très bien, on est capable de lever des fonds pour 1 milliard de dollars si le taux d'intérêt est égal à 5-6% et on va le faire. Donc le problème là, c'est plutôt le fait que ces investisseurs privés n'ont pas nécessairement l'information nécessaire sur l'état d'endettement des pays qui sont sur le marché. Donc, ne savent peut-être pas nécessairement combien ces pays doivent à la Chine, combien ils doivent à telle agence bilatérale, et ce genre de choses. Donc, il y a un problème d'information incomplète sur la capacité de remboursement dans le long terme de ces pays-là. Et il est tout à fait possible que les investisseurs privés fassent un mauvais calcul au moment où ils estiment le bien ou pas bien d'investir dans ces pays-là.
Alors, on continue ce tour de table qui est de l'ordre pour l'instant encore un peu du constat avec l'Union européenne. Nicolas Dufresne, la dette que l'Union européenne vient de créer, elle est toute récente. Elle vise à financer le plan de relance, lui-même réponse d'urgence à la crise sanitaire. Donc, on est dans une histoire très courte et pas du tout sur la même échelle de temps que celle que vient de nous décrire François Bourguignon pour la dette de nombreux pays africains. L'Union européenne, elle a beaucoup parlé de destin commun, de maîtrise d'un destin commun pour convaincre du bien fondé d'un endettement commun. C'était donc un choix politique.
Oui, alors moi j'aimerais, si vous le permettez, revenir, prendre un petit peu de hauteur sur ces questions de la dette, parce que je trouve que dans l'ensemble, on est un peu dans une approche schizophrénique de la dette. En fait, il faut comprendre à l'origine pourquoi il y a de la dette, d'ailleurs privée comme publique. Pourquoi il y a de la dette ? Parce qu'on crée la monnaie par la dette, c'est-à-dire que la création monétaire est indissolublement liée à la dette privée comme public. C'est un système qui trouve ses origines dans le développement historique du système bancaire, et c'est pour ça que tous les pays au monde ont des niveaux de dette publique et de dette privée qui sont en augmentation, à quelques rares exceptions près, comme des pays qui exportent énormément.
Mais pardon, Nicolas Dufresne, juste pour réagir à ce que vous venez de dire, on est toujours tenté de se dire quand on regarde ou qu'on écoute l'économie de loin, après tout, pourquoi la Banque Centrale Européenne ne créerait pas de monnaie pour rembourser ou pour annuler la dette ? Il y a bien eu une époque où le Trésor français procédait à ce type d'intervention. Pourquoi c'est plus possible ?
Alors absolument, parce que la dette est bien sûr un enjeu politique et idéologique en même temps qu'un enjeu économique. Alors en effet, par exemple en France, pendant toutes les Trente Glorieuses, on avait un système qui s'appelait le circuit du trésor, qui permettait à l'État français de bénéficier d'avances, soit d'avances remboursables, donc sous forme de prêts à taux zéro, soit parfois d'avances non remboursables de la part de la Banque centrale, ce qui équivalait à un don de monnaie. Et aujourd'hui, en effet, on a besoin de ce type de solution pour injecter de la monnaie libre, c'est-à-dire de la monnaie libre de dette dans le système, et stopper cette espèce de cercle vicieux, mais qui en même temps est nécessaire, de dette associée à la création monétaire. Alors nous, effectivement, à l'Institut Rousseau, et puis dans un livre que j'ai coécrit avec Alain Grandjean, on a proposé deux choses, soit que l'on puisse annuler une partie des dettes publiques détenues par la Banque Centrale Européenne en échange d'investissement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la Banque de France, pour le compte de la Banque Centrale Européenne, détient près de 457 milliards d'euros de dettes publiques françaises, qu'on pourrait tout à fait annuler, puisque une banque centrale peut fonctionner avec des fonds propres négatifs et ne craint pas évidemment d'avoir un bilan déséquilibré puisqu'elle crée la monnaie. Ou autre solution, les deux sont d'ailleurs pas incompatibles, ce serait d'injecter de la monnaie libre dans le système, par exemple que l'on demande à la Banque Centrale Européenne de financer des investissements via les banques publiques d'investissement ou via les États, mais c'est plus compliqué par rapport au droit européen puisque c'est interdit aujourd'hui. Et donc effectivement, on retombe sur votre question qui est l'interdiction. Il faut savoir que depuis 40 ans, on vit dans un système qui a été dominé par une idéologie, l'idéologie monétariste, qui fait que l'endettement est condamné, que l'endettement public est condamné, que la création monétaire est directement associée à l'inflation, ce qui n'est pas vrai, hein, puisqu'aujourd'hui, en plus, on risque beaucoup plus d'avoir une situation situation de déflation plutôt que d'inflation, et qui a coupé les banques centrales et les politiques monétaires des États et des responsabilités politiques.
Et donc la crise économique actuelle, elle remettrait en cause, ou d'aucuns diront une nouvelle fois, un certain dogme économique.
Oui, alors pour nous, effectivement, je considère qu'il est temps effectivement de remettre en cause ces dogmes économiques qui ont montré qu'ils avaient échoué à répondre à la question du chômage, de l'endettement, la transition écologique, de la relance de l'activité. Tous les pays, il faut savoir par exemple que pendant la décennie 2010, les États européens, malgré des taux nuls, voire parfois négatifs, se sont désendettés au lieu de s'endetter pour investir. Et donc ça, c'est vraiment, c'est presque criminel. Et donc on a imposé à des pays comme la Grèce, mais ça aussi était le cas avec l'Argentine, hein, vous en parliez tout à l'heure, où le prêt du FMI a été conditionné à des politiques d'austérité et de réduction du déficit publics qui ont plongé quasiment instantanément le pays dans une période de récession. Il faut savoir que depuis que le prêt a été accordé par le FMI à l'Argentine en 2018, 2018, 2019 et 2020 sont des années de récession pour l'Argentine et donc le nouveau ministre de l'économie argentin, Martin Guzman, dont je salue l'action, a dit que c'était terminé, qu'il fallait sortir de l'austérité, qu'il fallait au contraire relancer la machine économique, annuler, donc restructurer une partie des dettes, mais il y a une partie d'annulation, et sortir un peu de cette vision de la dette comme étant le diable de la création monétaire. Ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, il faut que cette création monétaire revienne dans le giron de la délibération collective et démocratique et qu'on puisse à nouveau se servir de l'arme monétaire pour relancer nos économies.
Alors, par exemple, vous relancez donc ce débat sur l'annulation de la dette. Il a été également relancé, cette question a été remise sur la table du bien fondé de l'annulation de la dette au sujet de la dette de certains pays africains. Un petit rappel quand même sur ce que veut dire annulation de dette. Il y avait tout un dossier là-dessus dans le Monde diplomatique du mois de juin. On prend tout ou partie de la dette capitale et intérêts compris. Et puis on remplace le montant à rembourser par un zéro. Et ce risque, vous le disiez tout à l'heure, François Bourguignon, il est connu des créanciers. Donc il est rémunéré par le taux d'intérêt. Et ça s'est déjà fait dans le passé. Je crois que le Mozambique, la Sierra Leone, l'Égypte, entre autres, ont bénéficié d'une annulation de dette. Qu'est-ce que ces pays ont fait de cet argent tout d'un coup à nouveau disponible? Est-ce que ils ont mis à profit cet argent entre guillemets pour des réformes par eux décidées et pas imposées par l'extérieur pour faire en sorte que leur économie soit viable?
Alors, je l'ai dit tout à l'heure, il y a effectivement eu, c'est pas seulement le Mozambique et quelques pays, ça a été la totalité des pays à bas revenus.
L'initiative Pays Pauvres Très Endettés.
De cette initiative. Et donc, de façon générale, aux alentours de 2015, enfin un petit peu avant, 2012, la dette de ces pays-là a été extraordinairement diminuée. Alors, qu'est-ce qu'ils en ont fait? D'une part, parce que la dette était beaucoup plus faible, ces pays ont retrouvé une capacité d'emprunt auprès des investisseurs privés dans le monde. Lorsque la dette du Mozambique, disons, était, je crois, à 70% vers les années 2010. Si le Mozambique avait voulu s'endetter auprès du secteur privé à cette époque-là, le secteur privé aurait considéré que le risque était trop élevé de ne jamais être remboursé. Donc, le Mozambique n'aurait pas été capable de lever des fonds auprès d'investisseurs privés dans le monde. Quelques années plus tard, avec une dette ramenée, je crois, à 40%, ou peut-être un petit peu moins, 35%, le Mozambique était tout à fait capable de lever des fonds parce que les investisseurs considéraient que 35% par rapport au PIB, le Mozambique, pays qui avait découvert des ressources de gaz naturel considérables offshore était un bon pari d'investissement. Et effectivement, en quelques années, la dette du Mozambique est passée de des 35% dont je parlais tout à l'heure à un peu plus de 100%. Je crois que le maximum a été à 130% il y a 2 ou 3 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est simplement passé que, d'une part, le gouvernement du Mozambique a nécessité de s'emprunter pour financer des dépenses d'infrastructures nécessaires pour l'exploitation du gaz naturel et pour attirer les entreprises multinationales qui allaient effectivement participer à cette exploitation. Et en plus de ça, étant donné la facilité de s'endetter à cette époque-là, il y a eu des débordements tout à fait incontrôlés, des cas de corruption relativement importants. Il y a ce que l'on appelle en Mozambique aujourd'hui la dette cachée, qui est simplement un emprunt de 2 milliards de dollars qui a été fait par une partie du gouvernement pour des raisons d'ailleurs relativement obscures et qui finalement grève la dette du Mozambique. Donc il y a en même temps une volonté de développement et un besoin de financer les infrastructures et d'accélérer le processus de développement. Mais de l'autre côté, il y a aussi des comportements dans ces pays qui relèvent d'une mauvaise politique, qui relèvent d'une mauvaise gouvernance. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut essayer d'empêcher.
Carlos Kenan, est-ce qu'on peut dire de la même chose de l'Argentine ? Et puis en Argentine, est-ce que les montants atteints par la dette excluent d'office un débat sur l'annulation ? Ou est-ce qu'il existe aussi en Argentine ? Et est-ce que ça permettrait de régler aussi les problèmes de fonds ? On sait que l'Argentine est très dépendante de ses exportations, donc des cours de matières premières. Donc, que peut une éventuelle annulation ou continuer à restructurer la dette sur les questions de fonds ?
Si vous permettez peut-être une courte réflexion à caractère général, et disons, dans cette problématique des dettes, il y a des responsabilités partagées. François Bourignon vient d'évoquer les mauvaises politiques de développement et de gouvernance dans les pays africains, mais il y a également parfois les comportements, disons, trop risqués des investisseurs et des créanciers privés, que, comme on disait tout à l'heure, parfois prêtent de manière inconsidérée, sans avoir tous les éléments, disons, pour juger de la bonne capacité de remboursement des pays.
L'Argentine, même après 8 défauts de paiement, les investisseurs sont toujours revenus quand même.
Oui, mais en prêtant à des taux très élevés, ce qui indiquait qu'ils considéraient qu'il y avait un risque élevé de défaut, justement ce qui s'est produit. C'est dire qu'il y a une responsabilité partagée des pays qui s'endettent, mais aussi des créanciers qui assument une responsabilité. Et je dirais plus largement, un monde qui produit ces crises financières récurrentes, pas seulement des pays en développement. On a eu la crise subprime aux États-Unis en 2007, la faillite de Lehman Brothers, etc. Ce qui veut dire que, disons, il y a un problème de règlement monétaire et financier, un système d'ailleurs qui implique des asymétries, parce que la dette des États-Unis, par exemple, est tout à fait particulière, parce que c'est un pays qui a, comme on a dit il y a longtemps, un privilège exorbitant de pouvoir s'endetter dans sa propre monnaie, et d'autres qui ne peuvent pas le faire parce que leur monnaie n'est pas une monnaie à usage international. Donc, dans ces contextes-là,
d'où le défaut de paiement du Liban en mars d'ailleurs.
Par exemple. Donc, dans ce contexte-là, en effet, disons, on ne peut pas peut-être avoir des solutions simplistes. Il y a, je crois, un consensus croissant qui montre qu'il y a une responsabilité partagée au niveau du système international qui devrait être régulée autrement. Ça, c'est un vaste sujet parce que ça implique des rapports de force politiques. D'autre part, il y a une situation spécifique des pays pauvres, notamment en Afrique, dont on parle d'annulation parce que leurs capacités productives sont très faibles et on voit mal comment ils pouvaient s'en sortir s'il n'y a pas parfois la possibilité d'effacer certains engagements et dettes. Et puis la problématique des pays à revenus intermédiaires comme l'Argentine, qui ont en effet, disons, cette récurrence de crise financière. Là, il y a une responsabilité évidente de l'Argentine aussi, mais je pense aussi des instances internationales. On a rappelé tout à l'heure le laxisme du Fonds monétaire international avec les prêts de 2018. Donc là, La question, c'est peut-être de conjuguer différentes mesures, types de politiques. Par exemple, une restructuration qui implique un allègement important de la dette auprès des créanciers privés. Par exemple, probablement aussi un certain nombre de politiques d'effacement ou de restructuration d'État à très long terme pour ce qui est des créanciers bilatéraux, des pays intermédiaires comme l'Argentine. Et concernant, par exemple, le Fonds monétaire international, qui est toujours un partenaire très important de ces pays, eh bien, une approche beaucoup plus pragmatique et réaliste, qui évite de tomber justement dans les errements du passé. Par exemple, là, il y a une renégociation ou une restructuration de la dette du Fonds monétaire avec l'Argentine, un nouveau programme économique, et ça serait vraiment très souhaitable qu'on ne tombe pas dans une perspective à la grecque, de reproduire cette situation-là qui avait finalement produit un redressement financier moyen de la Grèce, parce qu'il a toujours un taux d'endettement très élevé, il a toujours une économie faiblement diversifiée avec production d'olives et tourisme, pour le dire de manière un peu sympathique, et toujours avec un quart du PIB qu'il avait il y a une dizaine d'années. Donc, ce que je veux dire, c'est que là, il y a peut-être aussi une réflexion à faire sur, par exemple, la façon d'agir du Fonds monétaire international. Je crois que là, il y a des évolutions positives ces derniers temps, et que notamment la nouvelle directrice générale Kristalina Georgieva a compris qu'on ne peut pas tomber dans l'austérité, et comme ça a été rappelé aussi, il y a peut-être moins de différences que par le passé entre le Fonds monétaire, ce que vient d'être dit par Martin Guzman, le ministre de l'économie de l'Argentine, que de plus d'austérité, c'est pas acceptable. Il faut trouver une autre manière d'aborder les choses en essayant de produire des capacités de production, une trajectoire productive, et dans ce contexte-là, insérer la trajectoire budgétaire, financière du pays, et pas à l'inverse.
Et puisque vous évoquez la Grèce, Carlos Kenan, je me tourne vers Nicolas Dufresne, la question de la Grèce, qui par ailleurs trouve aussi toujours de quoi se financer sur les marchés. Doit-il y avoir et peut-il y avoir une réflexion mondiale avec le FMI sur les conditions qu'il impose en échange de prêts qu'il accorde, ces prêts qui permettent justement aux États de se refinancer pour éviter un défaut, mais parfois avec quelles conditions? Vous, Nicolas Dufresne, vous demandez dans cette tribune que vous avez signée avec un collectif d'économistes, dont Laurent Cialom, Gaël Giraud, entre autres, vous demandez sur le sujet, sur les questions de la dette, que le Parlement européen soit davantage consulté et intégré à la réflexion. Pour l'instant, qu'en est-il? Enfin, je veux dire, comment peut-on avancer là-dessus? La dette, c'est aussi une question démocratique.
Oui, absolument. La dette, c'est aussi une question démocratique, et dans le cas de la Grèce, on a vu toute la limite qu'il y avait à découpler la question démocratique et la question de l'endettement. Le meilleur exemple en a été lorsque la Banque Centrale Européenne a pris seule la décision de ne plus admettre les titres publics grecs au refinancement, ce qui a forcé le gouvernement grec, a mis la pression sur l'ensemble de la population grecque pour accepter les demandes de la Troïka. Mais on voit que tout ça a été décidé par des financiers sans aucune légitimité démocratique, et tout ça a été décidé vraiment en imposant au peuple grec des sacrifices immenses. Et c'est là qu'on voit que la question de la monnaie est un bien commun qui devrait faire l'objet de décisions communes. Dans le cas de la France, on rappelle par exemple dans notre livre que le programme du Conseil national de la résistance voulait faire du crédit et de la politique monétaire un bien commun à la libération et créer un parlement du crédit et de la monnaie. Ça n'a pas été fait, finalement. Les banques centrales sont au contraire devenues indépendantes, et ça, c'est une grande difficulté. C'est aussi une grande difficulté dans les pays, que ce soit en Afrique ou en Argentine. Alors effectivement, le FMI, alors avait presque fait un mea culpa au début des années 2010 et puis finalement n'a pas vraiment lâché ses conditions de politique d'austérité en échange des prêts qu'il accorde. Simplement, toute la difficulté, c'est que ces pays, je pense que les pays africains comme l'Argentine et comme certains pays sud-américains, devraient, comme Martine Guzman commence à le faire, instaurer une sorte de protectionnisme financier, c'est-à-dire réduire leur dépendance aux marchés financiers internationaux, avoir, alors par exemple, Martine Guzman non seulement a maintenu le contrôle d'échange en Argentine, mais il a aussi imposé une taxe de 30% sur les achats de devises étrangères et sur les opérations bancaires qui étaient réalisées dans d'autres monnaies que le peso argentin, et donc le dollar était spécifiquement visé. Pourquoi ? Parce que évidemment, un pays doit avoir sa souveraineté monétaire et ne peut pas dépendre des investisseurs internationaux et des institutions financières internationales. Alors bien sûr, dans
en quelques
cas de l'Afrique,
mots, s'il vous plaît. Oui, parce que justement, oui. On va se tourner vers France Bir. On doit conclure cette émission, donc peut-être je profite juste que vous alliez parler de l'Afrique pour demander à François Bourguignon de réagir à ce que vous venez de dire. Est-ce que les pays africains peuvent imposer cette protectionnisme financier, réduire leur dépendance aux marchés financiers ? Est-ce que c'est possible et comment ?
Si les pays se développent rapidement, ont des taux de croissance élevés, effectivement, il y a une possibilité de réduire la dépendance. Maintenant, il faut bien voir que l'apport de devises internationales est quelque chose de fondamental, un besoin fondamental de ces pays. Lorsque les exportations de biens particulièrement de matières premières, ne suffisent pas, il est important pour ces pays de pouvoir accéder des sources de devises leur permettant de faire les achats nécessaires en termes de biens d'investissement, etc. Donc, manifestement, c'est possible si les taux de croissance sont relativement élevés et si les prix des exportations sont relativement élevés. Pratiquement, ces pays sont encore aujourd'hui complètement dépendants de l'aide internationale. Quand on parle de dette, une partie de l'aide internationale, c'est de la dette concessionnelle, dans la mesure où les taux d'intérêt correspondants sont relativement faibles. Mais c'est de la dette tout de même. Quand on parle de la dette africaine, une partie de cette dette est une dette à taux zéro, mais il faudra bien rembourser le principal d'une façon ou d'une autre, et ça correspond à l'aide internationale. Oui. Il se trouve que, à l'heure actuelle, les pays africains ont un besoin très fort de cette aide qui provient du reste du monde. Alors maintenant, pouvoir accéder au marché international du crédit, ça c'est une autre chose, et personnellement, j'aurais plutôt tendance à dire que si ces pays font défaut sur les emprunts qu'ils ont contractés de cette façon-là. D'une certaine façon, le prix a déjà été payé aux investisseurs, dans la mesure où les investisseurs ont exigé des taux d'intérêt qui étaient bien plus élevés que le taux d'intérêt qu'ils auraient pu avoir sur les pays développés.
Merci François Bourguignon. Oui, on arrive à la fin de cette émission que je voulais quand même conclure par cette question à Carlos Kenan. C'est le comité pour l'abolition des dettes illégitimes qui le propose, un audit citoyen de la dette qui aurait pour mission d'estimer la part illégitime de la dette, part que l'État ensuite répudierait de manière unilatérale, et d'expliquer que ça s'est déjà fait dans l'histoire, que le Mexique, par exemple, dans les années 20, l'a fait. Il pouvait se le permettre parce qu'il avait déjà depuis longtemps remboursé le crédit d'origine. Mais en tout cas, comment mieux impliquer les citoyens? Est-ce que le débat existe en Argentine?
Oui, le débat existe en Argentine et c'est très salutaire qu'il y ait ce type d'initiative. Mais néanmoins, disons, la mise en place des mesures concrètes à la suite de cette analyse est problématique parce que, à la différence de l'exemple que vous citez, cité du Mexique des années 20. Et la dette dont on parle pour ce qui est de l'Argentine, pour l'essentiel, est actuellement une dette contractée dans une période démocratique. Et là, on venait de la révolution, justement, au Mexique, et qui impliquait une rupture sur tous les plans. Donc, en Argentine, cette question doit être mise en rapport avec la continuité aussi de l'engagement international de l'État, et qui est un ingrédient à considérer. Moi, ce qui me semble vraiment important, c'est de tirer les leçons pour l'avenir, et il y ait justement maintenant une prudence beaucoup plus grande dans la politique d'endettement extérieur pour ne pas tomber justement dans ces situations de surendettement et de crise financière.
Eh bien, je vous remercie à tous les trois d'en avoir discuté et débattu ce matin. Carlos Quedan, vice-président de l'Institut des Amériques. Merci à vous, François Bourguignon, professeur émérite à l'École d'économie de Paris, ancien économiste en chef et premier vice-président de la Banque mondiale. Et je vous remercie également Nicolas Dufresne, directeur de l'Institut Rousseau. Et le livre que vous avez à plusieurs reprises cité dans vos propos, c'est « Une monnaie écologique » paru aux éditions Odile Jacob. Merci à vous trois. Dans un instant, un autre choix qui engage sur des générations la bombe nucléaire.
I remember the promise that you made in the barn when the kittens were born and you could not keep warm. So you moved away the mountains that the sun rose behind. You said yourself a prayer and lay down with the blind. You lost him in your freedom, you need him now you're wild. Blessed is the memory of everybody's child. And the vow of our compassion that you swore through your teeth when the war began to end, and the photographs we. Nobody blames you as the train pulls away with its cargo full of snow, of these German paperweights. You lost them in your freedom, you need them now you're wild. Blessed is the memory. It's 5 in the morning and there's no one at home except for your wife and your child on the phone. Someone's got to listen to a promise or two. This room is far too small for a pilgrim like you. You lost him in your freedom, you need him now you're wild. Blessed it is the memory of everybody's child.
Blessed is the Memory, la reprise de cette chanson de Leonard Cohen par Rosemary Stanley de Birds on a Wire. Il est 13h24, vous écoutez France Culture.
Le magazine du week-end, Julie Gacon.
9 août 1945, le Major Charles Sweeney est aux commandes du bombardier américain B-29 Boxcar. Il transporte Fat Man, nom donné à la bombe atomique que Sweeney doit larguer sur la ville japonaise de Kokura. 3 jours plus tôt, la mission sur Hiroshima a été un succès, selon le mot sans doute employé par ses camarades américains. Mais cette fois, la météo est défavorable. Des feux créés par d'autres bombardements dits conventionnels, cela empêche le Major Sweeney d'atteindre sa cible. Quelle est l'autre ville sur la liste? Tiens, Nagasaki, le bombardier change de cap. Quelques minutes plus tard, l'explosion fera entre 60 et 80 000 morts selon les chiffres, ce qui porte à 200 000 morts le bilan humain des deux attaques nucléaires successives, Hiroshima et Nagasaki. Voilà parfois à quoi tient le désastre et le facteur chance, bien que la tournure plutôt positive de ce mot ne soit pas nécessairement bien adaptée. C'est l'un des aspects sur lesquels vous travaillez avec votre équipe. Bonjour, bonjour Benoît Pélopidas. Merci.
Bonjour, merci de me recevoir.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes le fondateur du programme d'études des savoirs nucléaires qui se présente comme le premier programme universitaire de recherche indépendant et transparent sur ses sources de financement sur le phénomène nucléaire. Vous êtes aussi chercheur affilié au Centre pour la sécurité internationale et la coopération de l'Université de Stanford. Alors Benoît Pélopidas, vous avez fait récemment une étude pour évaluer la mémoire que nous gardons de ces deux événements, Hiroshima et Nagasaki. Qu'est-ce qu'en a retenu la mémoire collective, de quoi on se rappelle?
Il y a vraiment deux résultats majeurs de ces deux sondages qui ont eu lieu à un intervalle régulier. En fait, juste pour vous donner un aperçu de comment ça se passe, ce sont deux sondages de la population européenne d'âge adulte et l'idée c'est de répliquer les questions pour vérifier que ce qu'on observe n'est pas juste une photographie, mais c'est bien un état des connaissances de manière stable. Et effectivement, sur ces deux sondages, on trouve deux choses qui demeurent. Et c'est pour ça que ça tombe très bien que je sois ici aujourd'hui et pas il y a 3 jours, parce qu'on se souvient de Nagasaki systématiquement moins que d'Hiroshima. C'est vrai dans toutes les tranches d'âge et dans tous les pays, et c'est consistant entre nos deux sondages. Alors donc sur l'ensemble des sondés, la différence entre le souvenir de d'Hiroshima et de Nagasaki varie de près de 20%. C'est vraiment
massif. Pourquoi ou pas on a une idée de pourquoi on se rappelle plus d'Hiroshima que de Nagasaki?
Alors il y a plusieurs dimensions à ça. Mais si vous me permettez la pirouette, moi ce qui m'intéresse là-dedans, c'est plus les conséquences de cette mémoire que ses causes. Mmh. Et justement, et vous l'avez rappelé en introduction, ce souvenir des bombardements atomiques comme de ceux d'Hiroshima, c'est ce souvenir de l'histoire d'une opération militaire bien planifiée et menée à son terme comme prévu. Alors que précisément, si on inclut dans cette mémoire le souvenir de Nagasaki, on est obligé de se saisir d'un rôle majeur de la contingence et de ce qu'on peut appeler la chance pour Kokura, qui a du coup été épargné, et la malchance pour Nagasaki, qui a été frappé, dès le début de l'âge nucléaire. Un autre résultat qui peut vous intéresser, c'est l'effet de l'âge et le fait qu'on oublie ces deux bombardements, et c'est pour ça que je suis vraiment ravi d'être ici aujourd'hui pour
faire
vivre.
C'est la génération de l'après-guerre froide, c'est ça ou pas? Il y a un effet génération après-guerre froide?
Alors, sur l'identification d'Hiroshima et de Nagasaki comme les villes bombardées, oui. C'est-à-dire, je vous donne deux chiffres. Si on prend les 18 à 27 ans, 71% d'entre eux identifient correctement les deux villes. Et si vous prenez les plus âgés, les 58 à 67 ans, on a 94% des sondés qui les trouvent tous les deux. Et ce que je vous disais tout à l'heure, systématiquement, cette même différence, avec 20% de moins pour ceux qui identifient Nagasaki.
Mais pourtant, Benoît Pélopidas, on a tous eu à peu près les mêmes livres d'histoire qui, certes, ne mettent pas forcément en cause les États-Unis dans ce qui serait un crime contre l'humanité ou qui présentent peut-être Hiroshima et Nagasaki comme une attaque ultime face à des Japonais jusqu'au boutiste, mais qui nous montrent les images, ces livres d'histoire, qui nous parlent du nombre de morts. A priori, on le sait quand même. Parce que vous dites que les causes vous intéressent moins. Ceci dit, elles disent quand même quelque chose du fait que c'est pas quelque chose qui revient tout le temps, même dans le discours politique, tout simplement.
Si vous voulez, ça pose une question plus large de comment on pense et on rend public la question de la vulnérabilité nucléaire. Parce qu'au fond, ce que Hiroshima et Nagasaki nous montrent, et ce dont elles témoignent, comme vont en témoigner par la suite les essais nucléaires, les crises et un certain nombre d'autres phénomènes comme la course aux armements, c'est le fait que, en tout cas au moins depuis la fin des années 50 et l'invention des missiles balistiques, il n'y a plus de moyens de protéger nos populations contre une attaque nucléaire.
Pourquoi ?
Qu'elle soit délibérée ou accidentelle. Je vous dis pourquoi dans un instant.
C'est une question de temps.
C'est ça. C'est-à-dire, tant que les bombes étaient délivrées par un bombardier, le bombardier ne vous envoyait pas nécessairement un Bristol en vous disant « j'arrive », mais il vous laissait un certain nombre d'heures entre le moment où il décollait et le moment où il atteignait sa cible. L'histoire que vous avez racontée du bombardement de Nagasaki, du changement de cap, du changement de cible, de la patience du fait du changement météorologique, est une histoire de cet ordre. Le missile balistique met, pour vous donner un ordre de grandeur, moins d'une heure entre le lancement et l'impact. Dans ce laps de temps, on n'a pas de moyen d'évacuer les populations. Les tentatives de rétablir de la protection, à savoir la construction de systèmes de défense antimissile balistique, ne fonctionnent pas. Et les tentatives de construction massive d'abris anti-atomiques sont, techniquement inefficaces pour des raisons dont on peut discuter, mais surtout sont très insuffisamment construites. Le seul pays qui prévoit la construction d'abris anti-atomiques pour tous ses citoyens, c'est la Suisse.
Et 30 minutes, c'est à peu près ça, hein, moins d'une heure, il n'y a pas le temps non plus de mener un débat démocratique pour savoir comment on riposte.
C'est juste.
C'est ça. Parce que la question forcément du débat démocratique, de la représentation aussi des peuples qui sont les plus concernés, évidemment, de leur sécurité défendue par la représentation populaire, le Parlement à l'Assemblée, à chaque fois qu'est prise une décision qui concerne le nucléaire, c'est aussi un de vos sujets de recherche.
Bien sûr. Alors, sur ce point de la démocratie, je voudrais répondre de deux manières. D'abord, en vous disant, au fond, que certes, il n'est pas possible de mener un débat démocratique en une demi-heure, mais ça ne veut pas dire que, par conséquent, du fait de la nature de cette technologie, tous les choix liés au nucléaire sont exclus ou devrait être exclu de la délibération démocratique. Ce que ça nous dit sur le missile, c'est que, enfin, plutôt, ce que le missile nous dit sur le choix démocratique, c'est que on ne peut pas délibérer démocratiquement de la riposte une fois que l'attaque est lancée. Mais ça ne devrait pas suffire à dire que donc le choix de posséder ces armes, de les perpétuer, de dimensionner la force d'une certaine manière, de décider qui va décider du lancement, tous ces choix-là, ils peuvent être faits en amont de manière démocratique. Et le fait est que la plupart des choix nucléaires ont été faits sans que les citoyens et leurs représentants élus soient présentés avec un choix clair jusqu'à présent. Et ça fait 75 ans.
Voilà, vous avez travaillé notamment spécifiquement sur la crise des missiles de Cuba. On va y revenir, bien sûr. Mais Benoît Pelopidas, puisqu'on parlait d'abord de notre méconnaissance, notamment d'Hiroshima Nagasaki, notre méconnaissance, elle est toujours d'actualité aujourd'hui. Combien de têtes nucléaires aujourd'hui dans le monde ? Est-ce qu'on le sait précisément ? Parce que les opinions publiques, entre guillemets, le savent assez peu. Donc combien de têtes nucléaires aujourd'hui dans le monde ? Quelle capacité de destruction ?
Alors, ça pose la question de ce qu'on appelle, disons, l'héritage nucléaire. C'est-à-dire, ceux qui arrivent dans ce monde aujourd'hui et ceux qui sont des parents aujourd'hui, de quoi est-ce qu'ils héritent ? On a plus de 13 000 explosifs nucléaires aujourd'hui dans le monde, dont 90% sont en Russie et aux États-Unis, mais aussi un écosystème qui porte les traces des essais nucléaires conduits dans les airs et en sous-sol. Juste pour que vous voyez, il faut préciser les ordres de grandeur à plusieurs niveaux. La plupart de ces armes sont massivement plus destructrices que la bombe narguée sur Nagasaki le 9 août 1945. Et je vais retourner la question pour que ça soit plus amusant. Globalement, d'après vous, la capacité de destruction des arsenaux nucléaires contemporains dans leur ensemble.
Mais c'est horrible parce que j'ai travaillé Benoît Pelopidas, donc moi je le sais, mais parce que je l'ai lu, mais je suis pas sûre de pouvoir vous le dire il y a deux jours. Mais en tout cas, je sais qu'aujourd'hui, les engins explosifs thermonucléaires, ceux qui sont apparus dans les années 50 et 60, ils dépassent les 50 mégatonnes, alors que les bombes de Hiroshima et Nagasaki, c'était l'équivalent de 15 kilotonnes, donc ça n'a rien à voir. Donc,
très bien.
Vous le multipliez par le nombre d'engins dans le monde entier et ça donne quoi alors?
Si vous voulez, l'ordre de grandeur qui est intéressant, c'est si on pense à la Seconde Guerre mondiale, qui est le conflit qui dure 6 ans et qui est la guerre la plus destructrice de l'histoire de l'humanité. Si on se demande combien de capacités explosives on a aujourd'hui, rien qu'en termes d'arsenaux nucléaires, en comparaison de tous les explosifs détonés pendant ces 6 ans, y compris Hiroshima et Nagasaki, on est à plus de 400 fois. Plus de 400 fois. Et je dois préciser que cette estimation ne tient pas compte de la possibilité d'un hiver nucléaire qui, à des seuils beaucoup plus bas, c'est-à-dire sans utiliser la totalité de ses arsenaux, produirait des conséquences climatiques qui induiraient de la famine.
Benoît Peloubida, ce qui a changé aussi depuis Hiroshima et Nagasaki, c'est qu'il y a quand même des textes, des doctrines pour encadrer juridiquement et le développement et plus encore l'usage de cet arsenal. Alors vous rappeliez à juste titre que 90% d'arsenal est aujourd'hui détenu par les États-Unis et la Russie. Et il se trouve que justement le traité New Start signé en 2010 qui limite le nombre d'armes nucléaires stratégiques des deux côtés arrive bientôt à expiration et qu'on ne sait pas exactement ce qui va devenir. Mais jusqu'à présent, des textes empêchent une catastrophe.
Disons, les textes régulent les relations internationales et sont censés contraindre les moyens de déclenchement de la catastrophe. Comme vous le mentionnez, en janvier 2021, il est fort possible que le traité New Start, qui crée une limite supérieure aux arsenaux américains et russes, ne soient pas reconduits. Mais il faut bien se rappeler, et ça c'est une des mauvaises nouvelles que la recherche nous a permis de réaliser, c'est précisément que tous les États dotés d'armes nucléaires ont entamé des processus de modernisation à très long terme de leur système d'armes pour une somme de 1000 milliards d'euros sur la prochaine décennie et que cette modernisation, elle n'est pas, contrairement à l'imaginaire commun, la conséquence d'une dégradation de l'environnement stratégique.
Pourquoi? Dans le cas... Parce qu'elle existe, cette dégradation.
Oui, mais dans le cas américain, les décisions de modernisation ont été prises dès le début à un moment où les relations avec la Russie étaient non pas au beau fixe, mais au plus beau depuis très longtemps, à savoir au début de l'année 2010, par le président Obama.
Avant l'Ukraine, par exemple, avant l'annexion de la Crimée.
Très largement avant l'Ukraine.
Avant l'élection de Donald Trump. La France aussi est en train de moderniser son arsenal, on n'en parle pas très souvent, mais elle en est où?
Absolument, la loi de programmation militaire 2019-2025 a prévu une enveloppe de 37 milliards d'euros pour la modernisation des systèmes d'armes en France. Et c'est pour ça qu'il est important d'y voir un peu clair sur les justifications de cette modernisation et sur l'histoire qu'on prolonge. Si vous voulez, la raison pour laquelle j'insiste sur le rôle de la recherche indépendante, c'est parce que la France est le seul pays doté d'armes nucléaires qui ne dispose pas d'une histoire non officielle de son programme, et c'est ce à quoi on essaye de contribuer modestement.
C'est-à-dire que Emmanuel Macron, aujourd'hui sur le nucléaire, perpétue les arguments d'un lointain prédécesseur.
Nous sommes en mesure de penser que d'ici à 6 ans, la puissance de dissuasion totale de la France dépassera celle de 2000 bombes Hiroshima. C'est ce que certains opposants, évidemment irréfléchis, appellent la bombette de la France. Ainsi s'ouvre devant nous la perspective d'une carrière de dissuasion, parce que attaquer la France, pour qui que ce soit, cela reviendrait à subir des destructions épouvantables.
Le général de Gaulle, en 1964, 2 ans avant le premier essai nucléaire français en Polynésie française, vous avez dû tous les écouter, les discours du général de Gaulle, Benoît Peloupidas, vous le connaissez celui-ci, bien sûr, avec cet argument massif et toujours jusque-là employé de la dissuasion.
Bien, merci d'avoir passé cette archive et de faire entendre celui dont le nom est quasiment devenu synonyme de dissuasion, à savoir le général de Gaulle. Et donc là, si vous me permettez d'être un peu plus longue dans mes réponses préalables, je voudrais essayer de convaincre, de vous convaincre et de convaincre, j'espère, vos auditeurs, que en fait, la recherche permet un certain nombre de correctifs par rapport à ça et par rapport à cet imaginaire de Gaulle, notamment de Gaulle comme un décideur du programme nucléaire français, deux, comme porteur d'une vision cohérente et qu'on a entendu là. On a entendu en fait ce qu'on appelle habituellement l'idée de la dissuasion tous azimuts, c'est-à-dire la capacité de frappe française est supposée dissuader n'importe qui. C'est supposé dissuader des menaces d'où qu'elles viennent. Et enfin, supposément, disait le général, cette force de frappe est censée être crédible. Eh bien, tout ça, ce sont des propositions politiques qui méritent d'être vérifiées. Et donc, quand le chercheur se met au travail, on s'aperçoit que ni le rôle de Gaulle comme décideur, ni la cohérence des arsenaux et de la doctrine, ni la crédibilité de la force de frappe, au moins jusqu'aux années 70, ne tiennent. Je vais peut-être m'en tenir à la dimension du décideur et vous me direz si vous voulez en entendre davantage. Sur le décideur, il faut d'abord...
Vous nous donnez un cours là, Benoît Pelopidas, en fait. C'est ça, vous nous dites exactement. Parce que moi, je voudrais quand même que vous nous expliquiez sur la question des décideurs. La crise que vous prenez comme exemple, une crise sur laquelle vous avez beaucoup travaillé, vous avez consulté toutes les archives, c'est la crise des missiles de Cuba. Il y a quand même bien eu, c'est ce que l'opinion a retenu, c'est ce qu'on a retenu, il y a eu équilibre de la terreur à ce moment-là, qui a évité le pire. Kennedy et Khrouchtchev avaient quand même, chacun dans son camp, le contrôle de ce qui était en train de se passer.
Alors, bon, je vous parle de Kennedy et de Khrouchtchev, si vous me promettez qu'on va reparler de Gaulle, parce que quand même, vous avez des décideurs qui se soucient, des auditeurs qui se soucient sans doute plus de Gaulle.
Mais on n'a plus que 8 minutes, hein, Benoît Pelopidas, ça passe vite,
alors,
allez-y.
Je vous dis très vite pourquoi il serait faux de penser que Kennedy et Khrouchtchev étaient en situation de contrôle parfait au moment de Cuba. D'abord, le président Kennedy est le seul à s'être constamment opposé à l'emploi de la force pendant les 13 jours de la crise. Tous les membres du comité de conseil ont changé d'avis et étaient tous plus en faveur, plus belliqueux, qu'ils n'ont bien voulu leur raconter a posteriori. Et vous allez me dire, oui, mais ça va, c'est le président, de toute façon, tout va très bien. Sauf que Kennedy, on le sait, souffre de douleurs chroniques dans le dos et se fait administrer des antidouleurs très puissants qui sont susceptibles d'affecter son jugement.
Il prend des médicaments.
Oui, il prend des stéroïdes. Mmh. En fait, il prend des stéroïdes. Celui qui les lui administre, le docteur Max Jacobson, va perdre le droit d'exercer la médecine. Et en fait, ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'on est dépendant d'un président dont les capacités de jugement étaient potentiellement affectées par ces médicaments. Et que par ailleurs, le 26 octobre 62, au pic de la crise, un essai de missile américain qui n'aurait pas dû avoir lieu a eu lieu. Et par chance, les soviétiques ne l'ont pas détecté.
Par chance. Mais tout est affaire de chance, en fait, si on vous entend bien. Parce que, ou alors, quoi d'autre a empêché une explosion nucléaire à ce moment-là?
Dans le cas de Cuba, c'est effectivement pas une histoire de contrôle. Ça peut pas être réduit à une histoire de décideur en situation de contrôle qui produit un effet dissuasif. Il y a une partie de cette histoire du rapport entre Kennedy et Khrouchtchev qui est une histoire de dissuasion, mais dans la mesure où on établit que ni Kennedy ni Khrouchtchev n'étaient en contrôle parfait de leurs troupes et que l'autorité d'utiliser les armes était déléguée, eh bien on est obligé d'admettre, et ça a été admis dans la littérature depuis une vingtaine d'années, que la chance nous a sauvés à Cuba et dans quelques autres épisodes.
Est-ce que ça peut dépendre aussi de la bonne volonté de ceux qui sont à la tête de ces puissances nucléaires, de la bonne entente, entre guillemets entre eux, en tout cas du fait qu'ils puissent prendre langue, discuter entre eux? Ou est-ce que c'est complètement indépendant des personnes qu'on met à la tête de ces États?
Si vous voulez, une des modalités qui conduit à la catastrophe nucléaire, c'est l'escalade de la crise. Donc, plus on s'éloigne de la situation de crise internationale, plus cette modalité de l'escalade s'éloigne avec elle. La possibilité de l'accident technologique demeure.
Mais regardez, aujourd'hui, on vous dit, la dissuasion française, elle est quand même justifiée par les nouvelles menaces nucléaires. Il y a la Corée du Nord qui aujourd'hui teste régulièrement de nouveaux missiles balistiques. Il y a l'Iran qui a repris son programme. Et en réaction, les puissances unies de la région qui sont tentées quand même de faire de même. On ne sait pas non plus ce que pourrait faire la Turquie d'Erdogan. Donc pourquoi la France devrait aujourd'hui, je suis pas sûr que ce soit votre propos d'ailleurs, mais abandonner son programme nucléaire militaire.
Alors, c'est pas du tout mon propos.
Vous êtes chercheur.
Non, c'est pas ça. C'est que mon propos, c'est d'expliquer que, si vous voulez, les militants vont vous dire il faut désarmer, et les autres militants vont vous dire non, il faut garder les armes. Moi, mon propos, c'est de dire les justifications pour lesquelles on vous dit de garder les armes et les justifications pour lesquelles on vous dit de désarmer ne correspondent pas à la réalité historique et ne donnent pas aux décideurs et aux citoyens la marge du choix. Nous, on est là pour leur rendre la marge du choix. Maintenant, il y a trois choses sur lesquelles je voudrais revenir dans ce que vous venez de proposer. D'abord, cet imaginaire de la prolifération, il est inexact. C'est-à-dire, ça fait, si vous voulez, 15 ans qu'on explique qu'on vit une prolifération sans précédent, mais regardez l'histoire de l'âge nucléaire, il n'y a jamais eu aussi peu de prolifération qu'aujourd'hui. Par ailleurs, dire il faut que la France ait une capacité de dissuasion, c'est pas la même chose que de dire il faut que la France ait tel type de système d'armes nucléaires pour exercer cette dissuasion. Et la discussion qu'il faut avoir, c'est quelles sont les capacités au service de quelle politique de défense. Et c'est cette question-là que j'essaye de réouvrir.
Il y a aussi la question de la Chine de plus en plus qui se pose. Les États-Unis, comme les traités New Start, doivent être ou pas renégociés l'année prochaine. Les États-Unis voudraient inclure la Chine dans les discussions sur la prolongation de ce nouveau traité. Est-ce que vous observez, vous, la Chine depuis votre programme de recherche et comment? Qu'est-ce que ça vous évoque?
Alors, la bonne et la mauvaise nouvelle, c'est que la différence entre l'expert et le chercheur, c'est que le chercheur dit « je ne sais pas ». Et sur la Chine, effectivement, c'est le pan sur lequel je n'ai pas de collègue qui soit particulièrement pertinent, donc je n'ai rien d'utile à vous apporter.
Sur votre chaire et votre programme de recherche à Sciences Po, dont vous dites régulièrement qu'il est indépendant, parce que quoi d'ailleurs? Parce qu'il ne dépend pas de financement de groupes privés, d'entreprises privées? C'est ça que vous voulez dire?
Alors essentiellement pour trois raisons. D'abord parce qu'on refuse strictement des financements issus de qui que ce soit qui aurait un intérêt dans l'issue du débat sur l'avenir du programme, que ce soit les constructeurs de l'arsenal ou les partisans du désarmement, et parce que précisément on est totalement transparent sur nos financeurs et qu'on est financé que sur la base de l'excellence scientifique. Et enfin, le troisième pan, c'est que en fait moi je ne rendais compte qu'à un conseil scientifique de gens qui ont contribué à l'avancée de la connaissance, donc ni à des industriels, ni à des officiels, ni à qui que ce soit qui ne fasse pas de recherche.
Est-ce que ça pose d'autres problèmes? Est-ce que parfois il vous arrive que les personnes qui vous financent vous disent que vous faites un programme militant?
Jamais.
Donc vous, contre le nucléaire.
C'est un peu la bonne nouvelle, si vous voulez. Le but de la recherche, c'est d'être hétérodoxe, c'est-à-dire de pousser contre la doxa, de faire avancer la connaissance. On n'a pas pour but d'être des appendices. On a pour but de mettre en question la connaissance existante et d'apporter aux décideurs et aux citoyens des moyens de juger par eux-mêmes.
Ça vous a déjà porté préjudice auprès de personnalités politiques, de décideurs, d'autorités tout simplement qui ne souhaitent pas pour l'instant remettre en cause ce dogme de la dissuasion, l'arsenal nucléaire, la modernisation?
Si vous voulez, quand on arrive dans un contexte où tout le monde est habitué à entendre ce qu'il a envie d'entendre, bah, évidemment ça produit des démangeaisons, mais le but c'est de tenir bon.
Par exemple?
Qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple? À la tribune des Nations Unies, il y a eu un certain agacement face à des découvertes archivistiques qui étaient simplement pas connues et qui sont là pour établir le fait que le discours de la confiance excessive, il a une histoire. Et on peut faire l'histoire de cette confiance excessive parce que ceux qui reçoivent ce discours ne sont pas en mesure de le contester. Et nous, on leur propose des moyens de le contester s'ils le souhaitent.
Est-ce que depuis votre position de chercheur, vous diriez, Benoît Pelopidas, que le traité de non-prolifération reste solide malgré tout?
Le traité de non-prolifération reste l'instrument multilatéral le plus ratifié à ce jour. Solide, qu'est-ce que ça veut dire? Si solide, ça veut dire qu'il a rempli ses objectifs de désarmement, de non-prolifération et de promotion de l'énergie nucléaire. De promotion de l'énergie nucléaire, sans doute pas autant que prévu. De désarmement, certainement plus, et c'est l'objet de la contestation. De non-prolifération, il faut discuter si c'est le traité ou si c'est la demande qu'il décide.
Merci beaucoup, Benoît Pelopidas, d'avoir été avec nous dans le magazine du week-end. Je rappelle que vous êtes le fondateur à Sciences Po de ce programme de recherche Savoir Nucléaire. Je crois qu'on peut plutôt vous trouver sous le nom de, en anglais, Nuclear Knowledges. Et on peut se procurer le livre que vous avez coordonné avec Frédéric Ramel, L'enjeu mondial, guerre et conflits armés au XXIe siècle, aux presses de Sciences Po. Merci à vous.
Merci beaucoup.
Le magazine du week-end, c'est une émission préparée par Antoine Dulster, Catherine Donnet, Lucas Lazo et Léo Grillet, réalisée par Véronique Samouilov. À la prise de son, c'était Florent Bujon.